Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal. Pascal Masirika.
À la une de l'actualité ce midi, les FARDC ont réussi à escorter plus de 300 véhicules bloqués depuis mercredi à Luna dans les territoires du Rumu à cause de l'activisme des rebelles ougandais de l'ADF. Les marchandises et les passagers à bord sont arrivés en sécurité à Komanda. Révocation du ministre provincial des Finances du Kasaï Oriental. Le gouverneur intérimaire reproche à Jean-Louis Kasonga d'avoir signé des correspondances pendant sa suspension de 3 mois, des allégations qu'il rejette en bloc. Notre invité, c'est le premier vice-président de la FEC Kasaï Central. Jean Asaka affirme que le gouvernement provincial et la FEC se sont convenus sur la gestion de la taxe convention. Cette taxe avait été instaurée à la suite des événements des Kamouenansapou. Madame, messieurs, bonjour. En Ituri, les FARDC ont réussi à escorter plus de 300 véhicules qui étaient bloqués depuis mercredi à Luna dans les territoires d'Irumu à cause de l'activisme des rebelles ougandais de l'ADF. Selon des sources proches de l'administrateur du territoire, ces véhicules, avec passagers à bord, mais aussi des marchandises, sont arrivés en sécurité à Komanda, localité située à environ 75 km de Bunia. C'est l'administrateur du territoire, accompagné du général commandant, responsable de ces taxes routiers qui ont conduit une patrouille de combat sous ce tronçon, indiquent des sources locales. Sept rescapés ont été retrouvés, sains et saufs dans la forêt. Le récit de Jean-Claude Lokidile.
C'est vers 8h30 qu'un cortège militaire a quitté Komanda hier jeudi pour se rendre à Luna, à 70 km plus loin. Durant près de 5 heures, l'autorité du territoire et le général commandant responsable de cet axe se sont imprégnés de la situation sécuritaire dans la région 24 heures après une embuscade des rebelles des ADF. Une attaque qui avait coûté la vie à au moins 4 personnes avec les sondiers d'une dizaine de véhicules. C'est ce que rapporte un membre de cette délégation qui faisait partie du convoi. Arrivé au village 3 antennes, l'équipe a pénétré à 4 km de la route principale en profondeur. C'est là où 7 rescapés de l'attaque de mercredi dernier ont été retrouvés. Parmi ces personnes, il y avait une femme et 6 hommes. Des informations confirmées par les porte-parole de l'armée à Ituri. Les uns ont été acheminés à Luna, d'autres à Beni et à Butembo. À Luna, un poste frontalier à la limite avec la province du Nord Kivu, 325 véhicules ont pu être cette fois ramenés en toute sécurité à Komanda. Deux motards qui s'étaient hasardés à circuler sur ce tronçon en dehors de l'escorte sécurisée sont tombés dans l'embuscade de ces rebelles. Selon la société civile locale, ils ont été tués par ces rebelles, leur moto calcinée, affirme Dieudonné Malangaï, membre de cette institution citoyenne. Bunia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Arrestation au Maniema de 10 présumés bandits armés dans un dépôt des biens volés à Kalima et à Kindu. Le commandant de la police ville a présenté ses malfrats hier jeudi au gouverneur intérimaire. Alphani Inri Samangala a prévenu que ces malfrats seront envoyés à Kanyamakasese. Ces propos ont été recueillis par Florence Kizalunga.
Une fois de plus, félicitations à nos éléments de la police qui continuent à prendre conscience de la vie de la population et de leur engagement vis-à-vis de l'État. Chers frères et sœurs, vous êtes en face d'un régime du peuple. C'est un régime béni. Tout celui qui est dans ce complot-là pour déstabiliser ce régime, Dieu va le confondre. Maintenant, là, vous êtes confondus. Dites à vos collègues de cesser cette pratique. Parce que nous sommes là comme libérateurs de cette province. Et la province est déjà libérée. Le message que j'adresse à la population, c'est de prendre conscience de notre province. Notre province a besoin du développement, n'a pas besoin de ça. Vous devez vous mettre au travail, comme tous les autres. Donc, ces gens doivent être traduits en justice. Et au besoin, nous allons les identifier. S'ils réalisent un nombre de 30-40 personnes, nous allons les amener à Kanyamakasese. C'est tout.
Et au Nord Kivu, la mairie de Goma vient d'entamer l'identification des rues et la numérotation des maisons. Objectif affiché, faciliter une meilleure intervention de la police en cas d'attaque des bandits. Notez que cette opération est menée avec un partenaire local. À Goma, une correspondance de Rosalie Zawadi.
Pour les autorités urbaines, au-delà des défis de mobilité auxquels font face les éléments de police sur terrain, retrouver l'adresse de la personne qui sollicite une intervention est un casse-tête. La population donne des références relatives aux bâtiments et même aux arbres. Les temps de retrouver les lieux, les criminels sont partis. Pour le maire de Goma, cette opération qui va commencer dans deux quartiers de la ville va améliorer pour beaucoup le travail de la police. Commissaire supérieur principal, Kabeya Makosa François.
Il y a une association qui est venue nous voir, ils ont des matériels pour la numérotation des avenues, des standards internationaux. Donc, même à 20 mètres, 30 mètres, vous pouvez déjà voir que c'était l'avenue, c'était le numéro. Ici, il n'y en a pas. Il y a 12 A là-bas, en face, il y a 27 E. Donc, c'est vraiment une confusion.
Selon des experts, l'identification correcte des avenues et des maisons facilitera aussi l'accès aux soins et services à domicile et même les visites de courtoisie. Nombreuses sont les personnes qui, après plusieurs tours dans les avenues, rentrent frustrées sans avoir retrouvé leurs proches, surtout si ces derniers ne sont pas joignables au téléphone. Les noms du partenaire dans cette opération n'a pas été révélé.
Révocation mercredi du ministre provincial des Finances du Kasaï-Oriental. Ainsi en a décidé le gouverneur intérimaire. Il est reproché à Jean-Louis Kasonga d'avoir signé plusieurs correspondances pendant sa suspension de 3 mois. Le ministre rejette en bloc ces allégations qui, selon lui, ternissent son image. Pour en parler, retrouvons en Boujimaï Esther Ndalafina.
L'arrêté portant révocation du ministre provincial des Finances est tombé le mercredi, mais cette décision n'a pas été médiatisée comme celui de sa suspension. Il est reproché à Jean-Louis Kasonga d'avoir signé plusieurs correspondances durant la période de 3 mois de sa suspension qui avait été motivée par le refus de présenter au Conseil provincial des ministres son rapport sur la dernière mission effectuée à Kinshasa quelques jours après la déchéance par l'Assemblée provinciale de l'ancien gouverneur Jean-Maweja Muteba. Contacté, le ministre Fouquet rejette ces allégations et parle d'un mensonge monté de toutes pièces contre sa personne. Réagissant à sa révocation, le ministre Jean-Louis Kasonga estime qu'il s'agit d'une chasse à l'homme, étant donné que sa présence constitue un obstacle dans certains dossiers d'ordre financier, dont celui de la présence d'effectifs sur les listings de paye des rentes mensuelles des anciens combattants, invalides, orphelins et veufs militaires. Le ministre dit se réserver le droit de rétablir son image ternie par les autorités provinciales actuelles. Signalons que pendant sa suspension, quelques ministères, dont celui des mines, avaient été amputés de sa gestion. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Non loin de là, au Kasaï central, la coalition de l'éducation pour tous plaide pour l'augmentation à 20% du budget provincial alloué à l'éducation. Cette structure a lancé la récolte des signatures pour solliciter l'appui de la population à cette démarche. Le coordonnateur de cette structure dit avoir constaté la diminution des allocations budgétaires à l'éducation. Rémi Sazumba est au micro de François Kadima.
La province du Kasaï central a négligé le secteur de l'éducation parce que, en moyenne, nous avons noté malheureusement la part du budget alloué à l'éducation, du moins pour la province du Kasaï central, est en dessous d'1%. Nous avons noté 0,06% un budget alloué à l'éducation. C'est à ce titre-là que nous avons remarqué que nos élus ont négligé, nos autorités ont négligé. Il y a lieu de pouvoir lui rappeler que l'éducation, c'est un développement humain et un développement d'un pays, d'une contrée, de la province. Voilà pourquoi nous avons initié cette pétition pour que nous puissions demander aux autorités politico-administratives, à l'Assemblée provinciale, donc aux élus de la province du Kasaï central, pour que cette fois-ci, comme bientôt nous serons dans une session budgétaire, qu'ils pensent que le budget alloué à l'éducation puisse arriver à 20%.
À Goma, au Nord Kivu, ils étaient nombreux ce jeudi au sortir des centres des examens d'État. À tous de bleu et blanc vêtus, ces finalistes du secondaire n'ont pas caché leur joie d'avoir terminé la session ordinaire. Cependant, l'uniforme de ces futurs diplômés d'État a été déchiré. Motif, c'est une pratique qui matérialise les mieux, selon eux, la rupture avec les études secondaires, même si tous ne sont pas du même avis. C'est comme nous l'indique cet échantillon choisi par Jules Ngalomona.
Moi, je peux dire ça nous honore parce que nous ne souhaitons pas revenir encore dans ces tenues, chemise blanche et pantalon bleu. Ça nous honore vraiment très bien.
Je félicite ce qu'ils vont de faire parce que je ne retournerai en bleu blanc encore.
Et cet uniforme pourrait aider ta petite soeur ou bien ton petit frère qui est encore à l'école secondaire?
Je vais lui donner l'autre qui reste à la maison.
De ma part, je n'encourage pas ça. Parce qu'il y a des années où tu peux manquer l'argent d'acheter une autre, ou bien le petit frère, ou bien ta petite soeur, et tu seras obligé de donner ce que tu avais au moins utilisé l'année passée. Alors si on a déjà déchiré ça, ce n'est pas une bonne chose.
J'ajoute que les autorités militaires de la province avaient déjà prévenu la veille qu'elles ne toléreraient pas ces pratiques entretenues à l'époque par des étudiants des universités locales. Santé maintenant. Le coronavirus sévit aussi dans certains milieux ruraux du Haut-Katanga. La nouvelle a été annoncée mercredi dernier à Lubumbashi lors de la réunion hebdomadaire de la lutte contre cette pandémie. D'autres précisions avec le médecin inspecteur provincial, Dr Thérèse Kayila Kianga, est au micro de Jean Gandou.
La création d'une unité de production d'oxygène dans la province, l'approvisionnement en vaccins, et l'appui logistique et financier équitable par les niveaux nationaux au regard des besoins croissants de la province et de son poids démographique. Parlant de la surveillance épidémiologique, le cumul s'élève à 4118 cas et 137 décès. Nous déplorons l'allure de la pandémie qui se ruralise dans les zones de santé de Pweto, Kilwa, Kashobwe, Kasenga et Lukafu. Par rapport à la prévention contrôle de l'infection, on note la décontamination des bureaux de la mairie de Lubumbashi. Quant à la vaccination, la province compte au total 4572 personnes vaccinées pour leur deuxième dose.
Revenons un instant au Nord Kivu où 75 familles de Kamandijit et Kamandilak dans les territoires de Lubero ont reçu mercredi après-midi une assistance en vivres offerte par le gouvernement congolais. Il s'agit des sinistrés des inondations survenues dans la zone voici près de moi. Reportage à Butembo de Florida Kahambu.
Cette assistance était constituée notamment d'étoles, des matelas, des ustensiles, du sel de cuisine, de l'huile végétale, de la semoule et autres. Sami Sakoumi, président de la société civile locale, salue ce geste du gouvernement central. Il indique cependant que le besoin est encore énorme.
Il y a eu des députés, Sylvain Kalouhali, qui étaient venus avec quelque chose là pour 75 ménages, mais il était venu avec 500 tôles. Si les 500 tôles, il avait levé 90 tôles pour la construction d'une école. Et les 410 qu'on a partagé pour les 20 ménages. Nous continuons toujours à appeler notre gouvernement de venir en aide à ces sinistrés de Kamandilak. Les gens souffrent, plus de 1582 ménages qui souffrent à l'extérieur.
Contacté, le député Sylvain Kalouhali, qui a procédé à la remise de ladite assistance du gouvernement, reconnaît sa précarité, d'où il plaide à une intervention des ONG partenaires en attendant que le gouvernement revienne à la charge. Rappelons que plus de 1500 familles sinistrées ont besoin d'assistance en vivres et non vivres à Kamandi, Butembo, Florida Kahambu. Radio Kapi.
Actualité internationale.
Des dizaines de femmes afghanes ont manifesté hier jeudi à Herat, une ville de l'ouest de l'Afghanistan. 19 jours après la prise du pouvoir par les talibans, les manifestantes ont voulu appeler au respect des droits des femmes alors que le gouvernement doit être dévoilé dans les prochaines heures. Et puis le bilan humain de la tempête Ida s'alourdit aujourd'hui. Les autorités américaines parlent de 44 morts sur la côte nord-est du pays. À New York, par exemple, les habitants ont essuyé d'importants dégâts matériels en raison des inondations.
L'invité.
Notre invité, c'est le premier vice-président de la FEC Kasaï Central, la Fédération des entreprises du Congo. Jean Asaka affirme que le gouvernement provincial et la FEC se sont mis d'accord sur la gestion de la taxe convention. Cette taxe avait été instituée à la suite des événements des Kamouina-Sapou par les opérateurs économiques. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Jean Saka, bonjour.
Bonjour, monsieur François Kadima.
La taxe conventionnelle a divisé la FEC et le gouvernement provincial depuis un certain temps. Et finalement, vous vous êtes mis d'accord sur la gestion de cette taxe. Comment les choses vont se passer désormais?
La grande différence avec les autres taxes qu'on a, c'est depuis 2017 que nous signons des taxes, mais qu'on n'a jamais respectées. Cette fois-ci, nous sommes mis d'accord que nous avons calqué le modèle de Goma. C'est-à-dire, avant que l'argent ne puisse sortir de la banque, nous devons d'abord nous réunir dans la commission paritaire pour que nous puissions affecter une somme d'argent à un travail pour le développement de la province. Par exemple, à l'asphaltage, comme on le fait à Goma. Là, maintenant, nous signons un document conjointement avec le gouvernement provincial. Ce document-là qui va servir au niveau de la banque pour décaisser les fonds. Donc, c'est ça, ce qui a beaucoup changé. Et aussi, c'est la bonne foi des autorités. Parce que vous savez, les clauses sont presque les mêmes. Mais malheureusement, ici chez nous, au Congo, c'est pas seulement Kanang. Les autorités ne respectent jamais leurs engagements. Et c'est ça le problème. Mais si les autorités vont recommencer la même chose, nous allons encore bloquer la machine.
Alors, mais comment l'argent est toujours mobilisé au niveau de la FEC et au niveau gouvernement provincial? Comment les choses se passent pour cette taxe?
Non, c'est-à-dire nous avons un instrument qui est là, DGRCAC, l'instrument de l'État, du gouvernement provincial, qui est chargé de récolter l'argent à travers cette taxe-là, c'est-à-dire que les opérateurs économiques, quand ils amènent les marchandises, ils payent au niveau de DGRCAC. Et puis, à la banque, l'argent est bloqué là-bas. Maintenant, pour le moment, l'argent ne peut pas sortir. C'est ça la différence. Je vous ai dit, l'argent ne peut pas sortir s'il n'y a pas un document qui justifie le décaissement de cet argent-là. Donc, il y aura un document qui doit être signé conjointement par la FEC et par le gouvernement provincial. J'espère que cette fois-ci, les autorités vont respecter cette clause. Parce que malheureusement, les autorités de notre pays, quand ces autorités trouvent que les mesures où la loi qui est prise ne les aide pas, ces autorités marchent sur la loi. C'est ça le problème.
Mais cet argent, c'est à hauteur de quel pourcentage? Les opérateurs économiques contribuent à quel pourcentage?
Écoutez, il y a 100% de cette taxe-là, c'est pour les investissements au niveau de la province. Mais il y a 65% qui sont directement affecté au projet d'investissement à impact visible. Et il y a les 18% au niveau de la FEC. Vous avez vu, nous avons réhabilité notre bureau de la FEC, dont nous avons aussi des travaux au niveau de notre fédération pour développer la province. Il y a aussi le pourcentage de suivi. Nous devons encourager les services mobilisateurs de recettes, parce que si ces services-là ne sont pas mobilisés, nous allons encore tomber dans le coulage des recettes. Donc, mais les 65% sont pour les projets d'investissement.
Alors, parlons projet d'investissement. En temps la FEC, c'est qu'elle a déjà une idée, tirant l'expérience de ce qui s'est fait dans la ville de Goma pour aider la province à se développer. Alors, ce serait quoi, par exemple, s'il faut affecter ces 65% au développement et investissement, par exemple?
Selon la FEC, d'abord, c'est la voirie. Donc, la FEC va accepter de décaisser des fonds pour arranger notre voirie, parce que, bien sûr, on ne doit pas superposer les projets. Mais même quand il y a les projets qui les gèlent, il y a des avenues qui sont délaissées. Ces avenues-là, si la FEC trouve l'importance, nous pouvons nous attendre avec l'OVI et nous décaissons les fonds pour asphalter notre voirie, parce que c'est ça aussi le développement de la province. Quand il y a le budget qui est voté, il y a une partie d'investissement. La taxe va servir dans cette tranche-là d'investissement de la province.
Au niveau de la mobilisation des recettes, est-ce que tous les opérateurs économiques contribuent généralement à cette taxe?
C'est là aussi la question. C'est-à-dire que pour le moment, comme nous sommes mis d'accord avec le gouvernement provincial et nous sommes sûrs, parce que l'enfer est en train de grandir, il ne va plus encore reculer, nous avons grandi. Donc, nous allons maintenant tout faire pour sensibiliser nos membres pour que chacun d'entre nous puisse contribuer à cette taxe-là. Parce que nous calquons les modèles de Goma. Aujourd'hui, à Goma, il y a la voirie qui est en train d'être faite toujours par cette taxe-là. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement, parce que cette taxe-là, ça va nous aider à asphalter notre voirie et d'autres projets. Je ne peux pas vous dire plus, parce que vous avez vu ce que nous avons fait à la FEC. Si aujourd'hui, la FEC rayonne au niveau de la province grâce à cette taxe-là, mais malheureusement, les mêmes efforts n'ont pas été suivis par le gouvernement.
Monsieur Jean Saka, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi ce midi, le premier vice-président de la Fédération des entreprises du Congo du Kasaï central, Jean Asaka, était interviewé par François Kadima. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté.